Rendez-vous de la Francophonie is an annual celebration that promotes the French language, heritage, and its numerous cultural expressions. It runs March 2nd to 22nd, 2017 in communities across Canada. The RVF series, which showcases the diversity, duality, and dynamism of Canada's Francophone communities, is brought to you by La Fondation Canadienne pour le Dialogue des Cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. Please stay tuned for the next half hour for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie. Visit ncra.ca/RVF for more information on the series.
Salut, ici Marie Fontaine. J'ai grandi dans une famille franco-albertaine. My parents encouraged us to maintain our French while we were growing up, avec la musique, le théâtre, la lecture. A typical day in the Fontaine household was moitié français, moitié anglais. Il y avait toujours de la musique sur le stéréo. My mother is a storyteller and a teacher. Notre père était annonceur de radio.
Les Normandises, le carrefour quotidien des grandes harmonies.
Salut. Aujourd'hui, jour férié, une émission des Normandises un peu...
I've always lived between two worlds, never quite an anglophone, et certainement pas une francophone qu'on nommerait pure laine. Je me souviens de mon premier voyage à Montréal. Je me sentais tout de suite chez moi, mais aussitôt que je me suis mise à parler, on m'a laissé savoir que je n'étais pas exactement francophone. So, who am I? Where do I belong? In Quebec? Or here in Alberta, where the majority of people speak English? Ou bien quelque part entre les deux. Somebody who speaks two languages, who has access to two sets of cultural norms, behaviors and traditions. Comme personne bilingue, j'appartiens à deux cultures, with two bodies of literature, music and words. In this radio documentary, I explore what it means to consciously live bilingually. I turned to three Franco-Albertans I know to ask them what it's like living with Canada's two official languages inside their heads. There's a constant tension, my brother told me when we spoke from his home in Montreal. It's like swimming against the current, said an old school friend when we met at her home. It takes effort, is what my cousin told me from his living room.
Mes trois invités, Lisette Trottier, enseignante dans une école d'immersion à Edmonton, Éric Fontaine, éditeur et traducteur à Montréal, et Jason Cody, joueur d'accordéon dans la région.
For my three guests, being bilingual means many things.
Mais surtout, ça veut dire qu'ils ont accès à deux cultures pour gagner leur vie. Restez à l'écoute.
I think I would say that when I think of my language, of my French language, I can think of, I see a big ocean with islands, and the islands are the French part. And sometimes they're bigger, sometimes they're smaller, sometimes they're hard to get from one to another. Alors c'est un, je vis dans un monde, un océan anglophone où il y a des petits morceaux de français que j'essaie d'agrandir.
Hello, I'm Eric Fontaine. I'm a literary translator, originally from Edmonton, and I work. Montréal.
Je suis né à Edmonton. Je grandis dans une famille moitié francophone. Ma mère est franco-albertaine de souche. Et je n'ai pas grandi avec la langue dans la maison, sauf c'était toujours partout la maison. Ça existait, des phrases, etc. Mais je n'ai pas suivi un parcours d'éducation immersion. C'était plutôt le français comme langue seconde.
Je dirais même que l'anglais m'est imposé. Que si j'avais le choix, mon choix, ce serait de faire les choses en français. Quand j'ai le choix pour une carte bancaire, des choses comme ça, je choisis le français. Parce que j'ai appris assez rapidement que c'est la seule façon que je peux maintenir mon français. La première fois que j'ai réalisé ça, j'avais 16 ans. Et puis, je commençais à voir qu'il fallait que je cherche des mots en français. Puis, j'avais fait un voyage de 2 semaines à Montréal avec ma sœur puis ses 10 enfants. Et puis, j'ai vu, comme jeune adulte, j'ai vu une situation où les gens vivaient tous en français. Puis, ils étaient heureux, puis ça faisait du bien, j'aimais ça, entendre ça. Alors, c'est là, je pense, que j'ai vraiment fait le choix personnel de vouloir garder mon français. À l'école, comme on sait, ça se faisait pas. On se parlait en anglais avec les amis, c'est juste bizarre de se parler en français. On voyait des enseignants, c'était « Hi, monsieur ». Dans le corridor, puis ils nous laissaient faire. C'est dommage. Alors, je voyais qu'il fallait que je prenne ça en main, moi-même. Alors, j'ai fait des choix personnels que je continue à suivre, comme par exemple lire en français, faire le choix conscient de penser en français. Et puis, c'est là que j'ai su que je voulais travailler en français. C'est la seule façon de pouvoir garder mon français.
Oui, oui.
Those street lights are changing as a new wave of sorrow enter the night. And concrete walls can sing.
Travailler en français, dit Lisette Trottier. Exactement, c'est ça. Comme pour mon frère Éric Fontaine. Can you face
the facts? Well, translating is something that I wanted to do for a really long time. It was something, I think, growing up in Alberta as a francophone, translating is almost a part of your everyday life. Every time we had something to do at work, you had to translate the textbooks from English to French because they weren't simply not available. So when I finally got the chance, I was extremely excited about it. And the first novel I translated was called You, Idiot by a local Montreal writer, Doug Harris, who consequently became a very good friend of mine because we worked very, very closely on his translation. He was able to read my translation and was very helpful. And I think the result is quite a success, and that I also won a prize. I won the Cole Literary Prize for Translation here in Quebec.
Parlons un peu en français. Raconte-nous un peu la façon que tu vis avec les deux langues dans ta vie.
Je veux dire que je travaille principalement en français à Montréal, mais je veux dire que pendant de nombreuses années, je me servais presque pas de l'anglais. Mais la traduction m'a ramené vers l'anglais de nouveau, parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux projets d'écriture, de traduction. Donc je lis énormément en anglais, tout ce qui se produit en fait du côté du Canada anglais. Et je dirais que pour cette raison, mon anglais, j'ai remis mon anglais de niveau. Et je vois aussi dans ma trajectoire professionnelle que le fait de maîtriser les deux langues est un atout inimaginable. Très peu de gens maîtrisent l'anglais et le français comme je le fais, comme j'ai eu la chance de faire. Et sans doute parce que je suis né en Alberta, où l'anglais est omniprésent, mais où le français était une langue qu'on pratiquait à la fois à l'école, mais aussi à la maison.
Oui, on pratiquait le français en Alberta, à la maison et à l'école. Mais c'était nos voyages au Québec qui nous ont permis de vraiment maintenir la langue. Comme pour mon cousin Jason Cody.
Puis à la secondaire, à la 10e année, je me suis fait partie d'un échange d'étudiants, 6 semaines ici, 6 semaines là-bas. Là-bas, c'était Montréal, Laval. Et puis ça m'avait fait allumer un désir d'apprendre, parce que, you know, c'était une partie de moi. So, à la 10e, après la secondaire, je me suis fait installer à Montréal avec la famille, avec des amis là-bas, et j'avais une blonde québécoise. So, à ce point-là, je me suis fait une immersion totale. So, quand je revenais à Edmonton, après mes voyages, etc., au début des années 90, là, j'ai commencé l'université, j'ai fait un majeur en français. Et je me suis fait plonger là-dedans encore. Et au même temps, à Edmonton, il y avait la cité francophone, l'édifice, toute la communauté, puis le théâtre, la musique, puis comme musicien qui joue l'accordéon. C'était un fit super bien.
Mm. Yeah. Alors, l'accordéon, quand on écoute ça, ça nous fait penser à tellement de choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, jouer l'accordéon?
L'accordéon, c'est mon instrument préféré depuis... mon instrument principal. J'avais commencé à 5 ans. Je suis le cadet de la famille et mes soeurs avaient le piano, la guitare. Pour moi, c'était l'accordéon. Puis, j'ai jamais plaint là-dessus. Like, right on, j'adore. So, c'est ça, comme j'ai dit, ça fit, ça comporte très bien avec la culture francophone.
Et est-ce que tu as eu des problèmes avec ton accent?
Je ne sais pas. Je dirais que j'ai un accent qui n'est plus tellement albertain, ni rien du tout. En fait, les gens ne savent pas trop d'où je viens maintenant. C'est un accent qui est formé par les voyages et des études et les amours et tout ça.
Ici Marie Fontaine. Vous écoutez À Contre-Courant.
La communauté francophone a beaucoup changé. Oui.
Comment ça a changé pour toi?
Ça a beaucoup changé. Ça nous a donné vraiment une grande ouverture. Alors, j'essaie de penser ça. Il y a environ 10 ans, 2006-2007 environ, je travaillais pour... j'étais la directrice du Centre de développement musical. Et puis, la CFA provinciale avait organisé une rencontre avec tous les organismes francophones de l'Alberta au campus Saint-Jean. Et on a eu comme 2 journées de rencontre, puis on a été informés sur l'immigration, sur la réalité des immigrants, sur la façon que ça affecte les organismes, la communauté. Puis là, comme communauté, on nous a donné le choix. Voulez-vous juste rien faire pour accueillir les immigrants puis les laisser s'intégrer de façon naturelle? C'est apparemment, si je me souviens bien, ce que l'Ontario avait décidé de faire. Ou est-ce qu'on veut être proactif, préparer des services pour eux, les considérer dans nos organismes, créer un espace pour eux. Puis, je suis bien fière de dire que comme communauté, on a dit non, on se prépare pour eux. On va avoir quelque chose pour faciliter leur arrivée. Alors, c'est là, comme directrice d'un organisme à but non lucratif, je me suis assurée qu'on avait un membre de la communauté immigrante, musicien, sur notre CA. Pour aider avec ça. Puis j'ai beaucoup appris aussi pour que ça prend quelques années pour s'acclimatiser. On a besoin premièrement de trouver un emploi, installer les enfants dans les écoles. Il faut les préparer pour l'hiver. Comment se préparer?
Oui, exactement.
Comment s'habiller? Ouais. Mm-hmm. Comment faire? C'est toute une éducation qu'on n'a pas grandi là-dedans.
Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin.
Well, Lisette, the Alberta winters are cold, but they're not as cold as the winters in Montreal. And my brother could tell you all about that.
Je suis venue à Montréal en 89 de musique à Montréal que j'aimais à l'époque. Je pense spontanément à genre Men Without Hats ou il y en a plein d'autres, mais qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit. Il y a la scène de la danse aussi avec La 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 Human Steps que j'avais vu à Edmonton en peut-être 86-87. Et l'idée d'être à Montréal au cœur de cette culture vivante qui se faisait était essentielle pour moi. Et aussi l'impression, en arrivant à Montréal, d'être arrivé en quelque sorte chez moi. J'aime cette ville, j'aime ces rues, j'aime ces gens.
Hi, if you're just tuning in, I'm Marie Fontaine and you're listening to À Contre-Courant and my interview with Eric Fontaine, Lisette Trottier and Jason Cody.
Alors c'est aussi un défi de vivre en français ici.
Ah, est-ce que c'est un défi? Non, mais ça prend l'effort. Ça prend un effort. On est entouré de l'anglais. Toutes les affiches, les panneaux sont en anglais. La radio est majoritairement en anglais. So, pour garder le français, ça se prend un effort. Pour moi, c'est vraiment à la cité francophone où il y a autant d'organismes francophones, soit le théâtre, soit le régional, soit le provincial, la CFA, qui fait beaucoup d'activités durant l'année. Des spectacles, des
festivals
familiales. Alors, il y a beaucoup de travail de ce parti de mon pain, tu sais. Mm. So, yeah, ça se prend de l'effort, même au même temps, non, pas tellement. Moi, je me sens assez chanceux de travailler en français. Comme je travaille à Edmonton, je pose la question, si j'étais à Montréal ou au Québec, je ne travaillerais pas autant. Ici. That goes, right? Get in line kind of thing?
Compétition.
Ouais. Puis oui, j'ai un accent. Yeah, j'ai de la misère avec le masculin, le féminin. It happens.
C'est la communication.
Yeah.
Ouais. Yeah. Qui est
important. Yeah. Absolument.
Alors, on était à l'école ensemble, comme ça.
La troisième année.
La troisième année.
Je me suis fait qu'en troisième année, on était dans la classe.
Oui, je pense que oui. Et bon, tu as fait beaucoup pendant ce temps-là qu'on ne s'est pas vu. Et tu viens juste de me raconter que tu as fait ta maîtrise. Parle-nous de ça.
Mm-hmm. C'est oui. Intéressant. Alors, je voulais vraiment contribuer à... Je voulais créer une thèse en français qui pourrait servir un peu la communauté francophone puis utiliser un peu mon exemple. Alors, j'ai créé... c'est un narratif, c'est personnel, autobiographique, sur la façon, les moyens que mes parents ont utilisés pour transférer la langue et la culture française à moi en situation minoritaire. Puis après, ce que moi j'ai fait, étant dans une situation exogame, avec un époux anglophone, mais qui a appris le français quand même, et comment j'ai fait pour transférer la langue et la culture à mes enfants. Alors c'est très spécifique pour Edmonton. Il y a des listes même d'activités que je fais en français. D'autres que je peux faire en français et en anglais, et d'autres qu'on n'a pas pu faire du tout en français, il faut aller à l'anglais pour ça.
Par exemple,
bien en français, ce qu'on a pu, à cause des organismes artistiques à Edmonton, mm-hmm. les filles ont pu prendre des leçons de piano en français. Violon, j'ai pu trouver. Batterie, non. Batterie, c'est en anglais. Alors, des leçons de natation, hit and miss. À Bonnie Doone, ils offrent parfois des leçons en français au travers de l'école. Autrefois, c'était complètement en anglais. La danse en français, les chorales, la musique, l'école francophone, comme de raison. One thing that I explain in my thesis is that choosing to do things in French often implies more work. We have to drive further. In order to have the violin lessons, I had to drive like across the city to have them in French once a mm-hmm. week. For myself, I grew up on the North End and everything, the French community was on the South Side. So I spent a lot of time on the bus. My dad drove me around a lot. And that's one of the sacrifices that you have to accept. It's not just a community school a block away. It's for us, for me, it was going across the city. 3 TS buses, grade 3 alone, transferring downtown. But I learned a lot about life. Like, I see a lot of positive.
So living in Montreal, you had the occasion to meet some pretty important people. Can you tell us about some of them?
Well, one of the things was I was trying to finish off a master's degree and then began working in publishing. And from one day to the next, I was a nobody. And then all of a sudden, I was working with some of the greatest authors that Quebec has to offer. I was working with people like Malik Herblay, with Jacques Godbout, with even very popular writers such as Marie Laberge. And these were people who were looking toward to me to help them. It was almost mind-blowing in that I felt like months earlier I was this person trying to finish off a master's degree in creative writing, and then suddenly I'm working with the best and the smartest and the brightest of Quebec writers. And it was certainly eye-opening and sobering in that it was somehow demystifying the whole process. You see these people who were in many ways working the same way I do, you know, trying to create their stories and trying to refine their thoughts.
So when you translate, are you changing the story at all?
Well, I mean, sometimes you have to in little ways. When there are jokes in English, you have to find an equivalent in French. When there are acronyms, names, things like that, you often have to. I mean, I won't change a name unless it becomes something impossible to read in French. And there are small adaptations you'll make, little things that will comfort the French reader.
I could never have imagined that my brother, Eric Fontaine, would end up being a literary translator in Montreal, or that my friend Lisette Trottier would champion the French language in the way that she has in the city of Edmonton, or that my cousin, Jason Cody, would dazzle audiences, both English and French, with his accordion.
Let's just switch to English. So you're involved in a lot of the really important festivals in the city. Can you tell us how those festivals maintain the language, maintain the culture?
Mm-hmm, mm-hmm. Well, I think that if we look at the Flying Canoe, Canoe Voila, that started, we're coming into our fifth year, and I was there at the beginning of it. It was just, that festival in particular incorporates the ravine and a nature walk and a beautiful illuminated trail. And then I my role is to program music for it. But it's become a wonderful event, almost to the point that we've be careful what you wish for. It's mm-hmm. Like last year was 60,000 people, that's the estimate, and like, oh my goodness, we're so big, what are we gonna do? So this is a good problem to have. But the reason I got that gig was I had been the artistic director of a music festival in Edmonton for 4 years called Edmonton Chant. It was a 3-day music festival. I was the artistic director, Que la musique francophone, and it was great. And that was starting to gain traction. Unfortunately, at the end of 2007, the board changed ideas and they've reformatted. But I mean, that experience allowed me to you know, do other gigs and stuff. And so yeah, festivals like that have been wonderful. I've been part of the Silver Skate Festival for over a decade now, and that's a The Silver Skate, of course, is a skating festival, but one of the pillars is music and culture. So I've been lucky to be on that festival for years and really great. In fact, winter festivals in Alberta are quite rich and diverse. Je travaille beaucoup en français là-dedans. Sorry, I don't mean to switch.
Non, c'est bilingue.
C'est bilingue.
On parle du bilinguisme.
Ish, il faut.
Ben oui.
So, yeah, comme le carnaval de Saint-Isidore, à chaque année, it's huge. It's like, eux autres, ils approchent 40 ans. They're just, it's a beautiful community of really involved I almost want to say isolated communities, but they really gather for that event. And there's La Fête Franco, Mois de Juillet. Like it's just huge. Not huge, but it's strong. It's not quantity, it's quality. Mm. Really, I find that there's a lot of support and a lot of good people. And a lot of times there, those festivals or those communities, soit des Québécois ou ceux de l'Est, that want to create some culture here, or des francophones, franco-albertains de souche, de l'Alberta, they just want to keep their language and their culture alive.
Ma thèse, c'est beaucoup parce que ça prend des théories pour s'associer avec. C'était vraiment un des niveaux de conscientisation de la langue et la culture. Où, au quatrième niveau, on est très, très conscient, puis on veut contrôler, on veut bien maîtriser la langue, on veut être en contrôle, puis on est vraiment conscient, on fait les efforts comme moi je fais. Mm. Quasiment tous les jours, je pense à ma langue. Ça, c'est quelque chose que je peux faire. Et puis, alors, troisième niveau, tu sais, ça descend de niveau chaque fois.
Mm.
Ou au premier niveau, on n'y pense même pas. Ce n'est pas une considération. Alors, ça, je dirais que... Parce qu'on dit que d'après les statistiques, en Alberta, 70% des francophones sont assimilés.
Mm.
Alors, ça veut dire seulement 3 sur 10 sont comme nous. Peuvent encore parler en français, qui ont des enfants qui parlent français, qui sont nés en situation comme ça. Alors, la grande majorité suivent le courant.
Oui, 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 c'est ça.
Alors, il faut aller contre le courant.
Contre le courant.
Oui, c'est une image. J'ai encore l'eau. C'est ça que je me vois. Oui, je vais contre le courant, puis j'atterris sur une île. Comme pour vivre en anglais, pour fonctionner en anglais, Edmonton, c'est comme un poisson dans l'eau. Alors, nous, quand on fait l'inverse, quand on fait d'autres choses, c'est comme... Des fois, je suis un peu exagérée, mais des fois, je dis à mes filles, c'est nous les freaks. Parce qu'on est tellement minoritaires.
Ben oui.
Yeah.
Oui. When you grow up with two languages, what language do you choose to speak? One, both, ou bien un mélange des deux? Do you even choose at all? Peut-être c'est la langue qui fait le choix, ou bien... Le cœur? Whatever it is, you can be sure that bilingual people are a different breed. C'est nous les freaks, comme disait un de mes invités, Lisette Trottier. Because we are people who choose to swim against the current. Merci d'avoir passé une demi-heure avec moi à contre-courant. Un grand merci à mes trois invités, Éric Fontaine, Lisette Trottier et Jason Cody.
Thanks for joining us for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie, presented by La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and the station. To learn more about the RVF series and the National RVF Celebration, and to send us your comments, visit ncra.ca/RVF.